Bonsoir. Clôture hier mercredi à Kinshasa de la conférence économique 2014 sur les perspectives de développement et de relance de la production agricole en RDC à partir des chefferies, secteurs et territoires. Parmi les recommandations, les conférenciers demandent notamment au gouvernement d'assurer la cohérence entre les actions du pouvoir central et celles des provinces, ainsi que de promouvoir les petites et moyennes entreprises. Quelle lecture faire de l'organisation et des recommandations de cette conférence économique, c'est notre thème de ce soir. Comme invité, nous recevons Daniel Moulenda, directeur de cabinet du ministre de l'Économie. Monsieur Moulenda, bonsoir. Marie-Hortense Manyonga, experte ingénieure agronome et docteur en sciences agronomiques et ingénierie biologique. Docteur Manyonga, bonsoir.
Bonsoir.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Jean-Pierre Mboukou, président de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. Entre-temps, bienvenue à tous dans votre émission.
Merci.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Clôture hier à Kinshasa de la 4e conférence économique de la RDC. Plusieurs recommandations ont ainsi été formulées, dont la mise en œuvre pourrait favoriser la relance de la production agricole dans les chefferies, secteurs et territoires du pays. Pour le ministre de l'Économie, la conjonction des énergies de toutes les parties après cette conférence permettra à ce que la mise en application des résolutions soit effective. On écoute Jean-Paul Nemoyato au micro de Daniel Tambinzoni.
Après cette conférence, il est recommandé que le secteur public, le secteur privé et la société civile travaillent ensemble pour réaliser les actions ci-après. La mise en place des fonds, des garanties pour que les PME accèdent au financement, le renforcement des capacités humaines et matérielles dans les territoires, secteurs et chefferies, la défiscalisation progressive des activités agricoles, la réhabilitation prioritaire des routes de desserte agricoles, l'appui au système de transformation de produits agricoles déjà amorcé par les petites et moyennes entreprises congolaises encadrées par la COPEMECO. La réussite de toutes ces actions nécessite la mise en place de la territoriale de développement, se traduisant par le recrutement, la formation, l'affectation et la motivation des administrateurs de territoire, des agronomes et des moniteurs agricoles compétents dans chaque territoire.
Daniel Moulenda, vous êtes directeur de cabinet du ministre de l'Économie. Qu'est-ce qui a milité à l'organisation de cette 4e conférence économique?
Merci, monsieur le journaliste. La 4e conférence avait des objectifs. C'est appuyer la diversification de l'économie congolaise. Comme vous savez, aujourd'hui, la croissance est portée par le secteur minier. Les gouvernements tout entiers mobilisés pour la relance de l'agriculture. Parce que nous savons que l'agriculture, c'est le secteur qui crée le plus d'emplois. Et quand on relance l'agriculture, c'est tous les pays qui va se remettre debout. C'est tous les secteurs du pays. Parce qu'en fait, nous avons des paysans qui sont dans l'agriculture et donc le gouvernement veut aujourd'hui qu'on se tourne vers l'arrière-pays afin de réaliser une croissance inclusive. Voilà un peu ce qui a milité en faveur de la tenue de cette 4e conférence, comme son Excellence Monsieur le ministre de l'Économie vient de le dire, où les ministres provinciaux étaient nombreux, beaucoup de ministres du gouvernement central. En fait, c'est pour harmoniser les méthodes de travail.
Et donc, si je vous comprends, l'agriculture est prise comme solution alternative au boom minier que connaît la RDC aujourd'hui.
Bon, je ne sais pas si on peut parler de solutions alternatives parce que l'un n'exclut pas l'autre. Sauf que en regardant vers l'agriculture, j'insiste, on veut diversifier notre économie. Les mines vont continuer à se développer Et nous voulons qu'à côté du MIN, qu'il y ait le développement de la production agricole.
Alors, on en est à la quatrième conférence économique. Il y a trois autres qui ont été organisées avant. Quel bilan avez-vous dressé par rapport à l'application des résolutions?
En fait, je pourrais dire que les dialogues dans un pays, c'est un déterminant fondamental. Je ne vais pas ici revenir sur l'histoire de notre pays. C'est ainsi que lorsque le président Joseph Kabila Kabange a pris le pouvoir, la première chose qu'il a faite, la première décision qu'il a faite, prise en 2011, en 2001 sur les domaines économiques, c'est créer le cadre permanent de concertation économique, afin que les opérateurs se mettent ensemble pour trouver des solutions concertées aux problèmes ou bien au goulot d'étranglement qui bloquait la reprise économique. Donc, si on doit faire un bilan, je crois que la première conférence qui avait lieu en 2004, c'était un essai réussi, comme le ministre l'a dit, à rapprocher les gens, à leur faire comprendre que c'est pas le dialogue qu'on peut booster l'économie congolaise. Et en 2008, il y a eu la deuxième conférence qui a fait un dialogue sans complaisance de tous les goulots d'étranglement. Et en 2013, nous avons fait le FENAT. C'est là où la relance de l'agriculture a été ciblée comme le deuxième domaine sur lequel le gouvernement devrait travailler. En termes de bilan.
Alors, il y a eu des résolutions. Qu'est-ce que c'est devenu toutes ces résolutions en termes d'application?
Disons, je prends les résolutions de 2013. Le secrétaire exécutif du cadre permanent de concertation économique a dit que les résolutions ont été exécutées à 40%. Ce qui est déjà un très bon signe pour un pays qui sort de la guerre. Il faut que les gens sachent que nous étions en guerre jusqu'à il y a quelques mois. Et que quand il y a la guerre, vous comprenez qu'il y a les conséquences.
Est-ce que vous voulez justifier le fait que l'on ne ressente pas vraiment dans la population ces 40% d'exécution?
Mais comment on ne les sent pas? Il ne faut quand même pas exagérer. Tout le monde sent que le Congo est en train de bouger vers la bonne direction. C'est peut-être notre culture de ne pas s'informer suffisamment sur ce qui se passe dans notre pays. Depuis qu'on a regardez vers la relance agricole, il y a des choses qui se passent dans ces pays.
Peut-être que c'est vous qui ne communiquez pas suffisamment.
Non, nous communiquons. Je prends l'exemple du lancement du parc agro-agricole de Bougangalonzo. Nous avons communiqué suffisamment.
Attention, Kinshasa n'est pas la RDC.
Non, mais c'est pourquoi nous avons appelé tous les ministres provinciaux chargés de l'économie et du commerce pour qu'ils prennent part à la conférence nationale. Et aujourd'hui, je les ai conduits à la FIKIN pour visiter les stands de la COPEMECO. Alors, ils ont mis les doigts sur ce qui est en train d'être fait.
Alors, Daniel Moulenda, cette conférence repose essentiellement sur la décentralisation parce que elle vise le Congo profond, comme vous l'avez dit, les chefferies, les secteurs, les territoires. Mais quand on sait que la décentralisation a beaucoup de mal à décoller, est-ce que vous pensez que ça a un avenir?
Non. La décentralisation a un avenir. Il y a certainement des petits problèmes de décollage. C'est une nouvelle expérience que le Congo est en train de faire. Mais aujourd'hui, nous voyons que les autorités provinciales sont en train de faire des choses dans les provinces qui font avancer les Congo. Alors, il était nécessaire qu'avec le gouvernement provincial, qu'on se mette ensemble pour maintenant définir des stratégies pour le développement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, même les très petites entreprises qu'on peut trouver dans l'arrière-pays.
Alors ça partirait de quelle stratégie avant que je ne donne la parole à Dr. Manyonga?
Disons, nous avons... Vous avez suivi le ministre de l'économie qui a dit dans son discours les choses qu'on devrait faire ensemble pour que les PME décollent. Parce que nous savons que les PME constituent vraiment les déterminants essentiels pour l'inclusion de la croissance. On a parlé de mettre en place des fonds de garantie parce qu'on a constaté que le financement manquait aux petites et moyennes entreprises qui n'ont pas accès au financement classique auprès des banques. On a parlé des routes de dessertes agricoles essentiellement et la défiscalisation des activités agricoles.
Voilà. Marie-Hortense Manyonga, vous êtes experte, ingénieure agronome et docteur en sciences agronomiques et ingénierie et biologique. Vous venez de suivre le directeur de cabinet, Daniel Moulenda. Comment d'abord vous percevez l'organisation de cette conférence économique?
Ben, c'est une bonne initiative et je pense que le concept même de décentralisation, c'est ça le départ, que ce soit pour le développement agricole, que ce soit pour la relance économique d'une façon globale pour notre pays. C'est vraiment très capital parce que vous savez, nous sommes dans un grand pays qui a une très grande diversité du point de vue, je dirais, climatique, du point de vue de la géologie, etc. Donc, il est très difficile de gouverner, de continuer avec une politique centrale. Et si je me rappelle bien, il y a le ministre aussi de la fonction publique qui est en train de mener aussi des réformes dans la fonction publique. Et je crois qu'il avait pointé quatre ministères, si je ne me trompe pas, notamment le ministère de l'Agriculture. Pourquoi il a pointé le ministère de l'Agriculture? Bon, il y a d'autres ministères aussi, mais celui de l'Enseignement. Parce que même pour faire décoller l'agriculture, il faut absolument qu'il y ait une décentralisation. Et donc, ça va nous permettre à organiser l'agriculture déjà au niveau de la base, ça veut dire au niveau des secteurs, des territoires. Et ça, c'est indispensable pour faire décoller l'agriculture. Et il y a quelques jours, j'étais dans vos studios pour partager avec vous, discuter avec vous concernant le projet de relance du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et cette action du ministre de l'économie vient plus ou moins compléter la partie que je sentais qui manquait par rapport à ce programme, c'est aller à la base, essayer de développer l'agriculture au niveau de la base. Et le point de départ, c'est la décentralisation. Ça, je suis tout à fait d'accord avec le programme du gouvernement. Seulement, il faut bien définir quelle stratégie il faut mettre en place pour que cela puisse bien décoller. Alors, pour moi, en termes de stratégie, évidemment, il y a toute la réforme de la fonction publique. Donc, on doit avoir des moniteurs, on doit avoir, au niveau de chaque territoire, tout doit être organisé au niveau de chaque province. Et moi, je suggérerais plutôt qu'il y ait des bureaux d'études au niveau de chaque province. Parce que la politique agricole, la politique de décollage de l'économie basée sur le développement de l'agriculture et même sur les PME doit être basée sur les situations spécifiques de chaque province, de chaque
territoire,
chaque chefferie. C'est très très important. Donc on trouvera par exemple, vous allez en province orientale, vous trouverez par exemple la situation de l'est de la province orientale qui est tout à fait différente. Quand vous allez à Bunia, c'est vraiment très très différent de ce qui se passe à Kisangani, de ce qui se passe tout à fait au nord et même la mentalité des gens et tout ça. Donc on a besoin qu'il y ait au niveau de chaque province d'abord des bureaux d'études solides qui font des états des lieux des PME qui sont les PME locales, les difficultés spécifiques de toutes ces PME, qui fait un état des lieux aussi de l'état de l'agriculture paysanne. Quelles sont les grandes contraintes? Alors, sur base de ça, au niveau central, on peut définir une politique globale, mais vraiment ciblée. Voilà un peu ce que... Oui.
Madame, tout à l'heure, je posais la question à Daniel Moulenda. Oui, c'est bien toutes ces stratégies que vous énumérez, c'est préalable. Mais d'après certains observateurs, la décentralisation elle-même peine à décoller déjà.
Oui, elle peine à décoller parce que vous savez, Monsieur Daniel venait de le dire, nous venons d'une situation chaotique et petit à petit, moi, je prends le bon côté des choses. Je ne voudrais pas... Le bon côté des choses, c'est qu'il y a des choses qui bougent au niveau du pays. Il y a... Chaque ministère essaye de se démener, de faire ce qu'il peut. Et donc, il y a déjà l'école, par exemple, l'école des fonctions publiques qui vient de la fonction public de l'administration qui vient d'être inauguré, c'est déjà pour nous un signe d'espoir. Voilà, le ministre de l'économie, il vise la décentralisation. Ils vont recruter des gens au niveau des secteurs, c'est bien. Et je sais que ça va en communion avec tout ce qui se fait au niveau de l'agriculture, au niveau de la fonction publique, au niveau de l'économie, c'est tout un ensemble. Mais je crois que en s'appuyant sur des choses concrètes, ça veut dire des choses que les gens vivent au quotidien, au niveau local. Ça veut dire, or, nous savons que la grande population du Congo vit de l'agriculture. Alors, partir la décentralisation, partir déjà de l'organisation décentralisée de l'agriculture, pour moi, il y a de l'espoir. Parce que je crois que c'est ça que, quand on dit que les gens ne font pas des changements, on a besoin de toucher dans ce que les gens font tous les jours, et c'est ça, et c'est l'agriculture.
Merci, docteur Marie-Hortense Manyonga. La réalisation me signale qu'on ne pourra pas avoir plutôt Jean-Pierre Mboukou, président de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. Mais à la place, nous avons plutôt docteur Jean Dedieu Minengou, qui est expert en développement rural. Bonsoir, docteur, vous nous suivez?
Bonsoir, messieurs les journalistes.
Alors, vous avez suivi, des bribes d'intervention de Daniel Moulinda, mais certainement de Dr Marie-Hortense Manyonga. Comment vous avez analysé l'organisation de cette conférence économique qui basée également sur l'agriculture, les développements à la base à partir des chefferies, des territoires et même des secteurs?
Oui, je crois que si, comme ils l'ont dit, si nous voulons développer la République démocratique du Congo, je crois que l'agriculture devrait jouer un rôle tout à fait central parmi toutes les activités. Je crois qu'au niveau du sommet de l'Union africaine qui s'était tenu très récemment, ils ont dit qu'on devrait rehausser les budgets de l'agriculture au niveau des États jusqu'à 10%. Et aujourd'hui, maintenant, avec la conférence qui vient de se tenir, ils disent qu'il faut décentraliser, il faut aller vers la décentralisation pour développer l'agriculture dans notre pays. Je crois que toutes les idées vont dans le même sens. Mais je ne pense pas, à mon avis, scientifiquement parlant, que quand on va vers la décentralisation, et finalement l'agriculture pourrait se développer en République démocratique. Les vrais problèmes, que la décentralisation soit là ou pas, il faut qu'il y ait des bonnes politiques agricoles si nous voulons que ce secteur joue un rôle important pour le développement du continent africain et pour le développement de la République démocratique. Même si on en est vers la décentralisation, si les provinces ont la réalité du pouvoir aujourd'hui, c'est vrai, de façon pratique, les provinces aussi la réalité du pouvoir. Moi, je vois ce qui se passe, par exemple, dans la province du Bandundu, qui se passe dans la province de... Mais c'est une certaine autonomie dans la manière de faire les choses. Est-ce que ces politiques-là peuvent-elles amener réellement l'agriculture de l'avant dans notre pays, tout comme ce qui se passe dans d'autres pays en Afrique? Et c'est vrai que moi, je suis d'accord lorsqu'ils disent qu'il faut commencer par la base. Je vois les gens qui ont parlé, par exemple, du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Oui, mais on ne peut pas développer la République démocratique du Congo en créant des parcs à travers la République. Parce que nous avons, ils parlent des grandes populations qui s'occupent de l'agriculture, non? Nous avons autour de 70% de la population congolaise qui vivent de l'agriculture. Si nous voulons que le secteur agricole joue un rôle important, nous devons appuyer les agriculteurs. Toutes les politiques doivent être orientées pour faire de ces gens-là les véritables professionnels de l'agriculture. Si aujourd'hui on arrive à améliorer les conditions de vie des agriculteurs, mais on lutte contre la pauvreté et on constitue ce qu'on appelle... Parce que le développement d'un pays, messieurs les journalistes, passe par la promotion des petites et moyennes entreprises. Si, avec 70% de la population congolaise qui s'occupe de l'agriculture, nous faisons de ces gens-là des PME, qu'est-ce que le Congo va devenir? Un pays, un État qui sera très puissant dans les domaines agricoles, qui va nourrir une bonne partie de l'Afrique, une bonne partie de l'humanité. Donc, je crois que nos politiques doivent être orientées vers ce genre d'acteurs au lieu de s'engager dans des trucs d'éléphants blancs et parcs agro-industriels. Voilà ce que moi je peux dire par rapport à ça.
Alors, docteur Jean de Dieu Minengu, docteur Hortense Manyonga a évoqué plusieurs préalables et ainsi que des stratégies, par exemple la réforme de la fonction publique, des bureaux d'études à installer au niveau des provinces, tenir compte de la spécificité de chaque entité. Ne pensez-vous pas que la décentralisation reste c'est le plus grand préalable pour arriver à réussir cette politique agricole au niveau de la base.
Je suis d'accord avec Hortense qui dit qu'il faut la décentralisation, mais il ne faut pas que ce genre de choses, on a déjà entendu beaucoup de termes ici, voilà, on peut dire voilà la décentralisation, on peut dire voilà la démocratie, mais dans la pratique c'est autre chose qui se fait. Je suis d'accord avec Hortense qu'il faut décentraliser. Je suis d'accord avec la réforme de la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, si on ne réforme pas la fonction publique, il se pose un problème, par exemple, d'aménagement du territoire dans la République démocratique du Congo. On ne peut pas développer le secteur agricole tant que le territoire national, messieurs les journalistes, n'est pas aménagé. Tout ce qu'on dit, c'est du blabla. Il faut arriver à aménager le territoire. Et pour aménager le territoire, je suis d'accord avec Hortense qu'il faut réformer la fonction. Il faut réformer la fonction. On peut réformer la fonction publique, on peut faire la décentralisation. Tant qu'il n'y aura pas de bonnes politiques agricoles et tant qu'il n'y aura pas une volonté politique pour faire de l'agriculture un secteur clé pour notre développement, mais tout ce qu'on dit, ça va tomber dans l'eau. Hein. Donc, je partage le point de vue d'Hortense, mais la clé de base de tout ça, il faut des bonnes politiques et il faut qu'il y ait une volonté politique pour amener l'agriculture comme secteur pour le développement en République démocratique. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'on est en train de dire. La fonction publique, vous avez les services, par exemple, qui existent au niveau de... Vous avez le service national des semences, vous avez le service national de végétalisation. Ces services doivent être réformés, ces services doivent être appuyés au niveau du gouvernement central et au niveau des provinces. Parce qu'on dit qu'on pense que quand on fait la réforme au niveau de la fonction publique, les choses tournent. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans la province de Mandoundou, il y a par exemple ce qu'on appelle le village agricole. Vous pouvez me dire quel est le service de l'État qui est impliqué dedans? Dans ce programme, le service national de vulgarisation, le service national des semences devait absolument être impliqué dans ces genres de programmes. Mais ces gens ne sont pas impliqués. Même si aujourd'hui on faisait quelques trucs sur la réforme ou sur quoi que ce soit, donc je doute très fort que ça donne de très bons résultats. Donc il faut des bonnes politiques agricoles, il faut qu'il y ait une volonté au niveau national et au niveau des provinces si nous voulons amener l'agriculture congolaise vers le développement. Tout ça, moi je dis que ça, ce sont des sous-préalables. Mais le véritable préalable, si nous voulons que l'agriculture soit un secteur clé pour le développement de notre pays, il faut de bonnes politiques,
merci.
Il faut la volonté politique.
Merci Jean de Dieu Minengu. Daniel Moulenda, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient d'Ouvira au Sud Kivu.
Justin Bitakwira Mdende, je suis dans la province du Sud Kivu à Ouvira. Jusque là, nous avons encore des doutes et moins d'espoir envers le gouvernement central de la République démocratique du Congo pour améliorer les secteurs économiques car il n'y a pas de méthode claire et suffisante favorisant les progrès économiques de ce pays dans les provinces et territoires pour satisfaire sa population.
Réaction Daniel Moulenda.
Oui, d'abord pour l'intervenant de tout à l'heure, je voudrais lui donner une précision. D'ici 2050, le Congo va compter 200 millions d'habitants. Gouverner, c'est prévoir. La politique agricole du Congo doit comprendre deux grands aspects. Nous devons construire des parcs pour favoriser l'agro-industrie. Et nous devons soutenir la production paysanne pour que les paysans, à travers son travail, puissent avoir la nourriture et puissent vendre une partie de son travail, de sa production, afin qu'ils deviennent à la fois producteurs et consommateurs. Ainsi, la demande au niveau national va augmenter et la croissance va continuer à s'améliorer. Donc, le parc agro-industriel, ce n'est pas des éléphants blancs, comme nous avons vu le cas des CCIZ et d'autres ouvrages qui étaient faits pendant la Deuxième République. Ça ressort d'une stratégie coordonnée en fonction du présent et de l'avenir. Donc, il en est de même des meilleures politiques. Je ne sais pas ce qu'on appelle politique. Parce qu'en fait, nous les Congolais, nous sommes vraiment habitués à ce que les ouvrages nous ont enseigné. Nous avons un problème sur le terrain. Nous n'avons plus une administration, une territoriale de développement. Vous avez suivi le ministre de l'économie, il a dit, parmi les choses urgentes, il faut recruter les administrateurs des territoires qui sont des agents de développement. Il faut qu'on retrouve les agronomes et les moniteurs agronomes pour encadrer les paysans. Je ne sais pas si ça, c'est pas une stratégie, si on ne peut pas appeler ça une politique. Je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons appeler politique. Ce sont des actions qui sont destinées à réparer les goulots d'étranglement. Tandis que pour le frère qui vient de nous appeler de...
D'Ouvira.
Il doute parce qu'il ne voit pas des méthodes suffisantes. Donc, il est quand même assez déplorable que les Congolais ne voient pas ce qui se passe au Congo. Même dans les provinces. Même dans les provinces qui sortent de la guerre. Les gouvernements centraux et les gouvernements provinciaux sont en train de faire bouger des choses. Je crois que il faut qu'on les reconnaisse. Nous n'avons pas seulement la paix aujourd'hui, mais nous avons des efforts de reconstruction qui sont tangibles partout. Je peux vous donner un exemple?
Alors c'est comme je vous disais, Kinshasa, ce n'est pas la RDC. Il y a des territoires, il y a des chefferies dont on parle ici où les changements ne se font pas sentir.
Ça dépend de la définition qu'on donne au changement. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a quelques mois, je suis allé dans la province orientale, mais j'ai roulé de Kisangani à Bouta en moins de 5 heures. Mais ces tronçons, on les faisait avant 2 semaines, 3 semaines. Donc, il y a des choses sérieuses qui sont en train de se faire. Nous prenons les routes de dessert agricole. Même tout près de chez nous, ici, la province de Bandundu. Donc, le gouvernement a mis en place, peut-être que monsieur ne connaît pas, nous avons un programme qu'on appelle RRR pour la réhabilitation des routes à travers la République démocratique du Congo. 15 000 kilomètres de route.
Alors, Daniel Moulenda, aller jusqu'au niveau des chefferies, des secteurs, des territoires, c'est une grande synergie. Il faut mobiliser beaucoup de moyens. Visiblement, cet aspect-là n'a pas vraiment été évoqué du moment que l'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de rétrocession entre les provinces et ces entités décentralisées-là.
Vous savez, nous disons aux Congolais que la réflexion doit précéder l'action. Nous avons réfléchi ensemble avec les gouvernements provinciaux. Il faut donner le temps et les acteurs vont changer leur stratégie. C'est pas un problème d'argent d'abord, c'est un problème de vision. Le président de la République nous a mis, il a mis le pays dans la vision de la révolution de la modernité. Et le gouvernement dit d'ici 2030, nous devons atteindre l'émergence de notre économie. C'est pourquoi nous devons encourager les initiatives de développement à la base. On n'a pas le choix.
Merci. Docteur Hortense, Marie-Hortense Manyonga, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est Papi Kassema à Kinshasa. La mise en œuvre de ces recommandations demande quelques préalables à résoudre, à savoir la construction et la réhabilitation des routes de dessert agricoles, la résolution des conflits communautaires, la vulgarisation et la sensibilisation de la constitution, des lois, de la planification familiale, des règles d'hygiène et écologiques, la suppression effective des trafics et la consommation de drogues et boissons alcooliques. En 6, le caractère gratuit et obligatoire de notre enseignement primaire doit devenir effectif. L'on doit par ailleurs inculquer aux Congolaises et aux Congolais la culture fiscale. Et il faut réformer notre machine administrative, notre politique criminelle, fiscale, d'emploi et notre système éducatif.
Réaction, docteur Manyonga, il y a certains aspects que vous aviez déjà évoqués.
Oui, oui, c'est très important. Finalement, monsieur Papi Kassema, il vient de brosser plusieurs aspects qui touchent d'ailleurs plusieurs volets différents. Il y a la vulgarisation de la loi. Beaucoup de Congolais ne connaissent même pas Parlons même de la loi agricole. Beaucoup de Congolais ne s'informent pas, donc ils ne cherchent pas non plus l'information. C'est vrai que peut-être qu'on demandera à tous les acteurs, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau des politiciens, des députés, d'informer assez les populations.
Et quelquefois, cette information n'est pas accessible.
Bon, il est vrai que ce n'est pas toujours évident d'accéder aux informations. Donc, de ce côté-là, moi, je crois qu'il y a la part de... Bon, on voit toujours les gouvernements provincial ou central, peu importe, mais on ne voit pas la part aussi de la population. Combien de Congolais lisent encore? Combien de Congolais cherchent l'information? Mais c'est vrai qu'au niveau rural, ça doit être appuyé, évidemment, tant quand on a des vulgarisateurs, quand on a des encadreurs, les administrateurs de territoire qui sont vraiment des agents de développement, ils peuvent mettre en place des stratégies d'information, de vulgarisation. Moi, je voudrais revenir encore sur un aspect en termes, on parlait de la politique, il y a un manque de politique sérieux, comme ils disaient, mais moi, j'insiste sur la stratégie au niveau de la base, ça veut dire au niveau des provinces, au niveau des territoires, au niveau des secteurs, et la stratégie au niveau central. Vraiment, ça, il n'y a que ça. Et pour mener des bonnes stratégies, il faut à la base, comme on le disait tantôt, des études préalables. Il faut des réflexions préalables où différents types d'acteurs sont mis ensemble pour pouvoir réfléchir et orienter ces politiques. Aujourd'hui, dans le monde paysan, je dirais que les paysans... je suis ingénieur agronome, bien sûr, mais quand je vais dans le monde rural, j'ai toujours l'humilité d'aborder, les paysans, parce que mine de rien, ce sont eux qui nous font vivre. Mine de rien, ils ont de l'expérience. Mine de rien, ils ont des connaissances à elles. Ce qui manque, c'est l'encadrement, surtout en termes d'infrastructures, des stratégies, d'organisation, etc. Donc, ce que moi je peux dire, c'est que quand on passe dans toutes les provinces, il existe déjà au niveau de la base ce qu'on appelle les organisations paysannes. Et d'ailleurs, même au niveau du ministère de l'Agriculture, on reconnaît par exemple la CONAPAC, qui est une grande plateforme où toutes ces organisations paysannes se retrouvent au niveau national. Mais au niveau des provinces, il y a aussi toutes ces fédérations au niveau des provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, Katanga. J'ai assisté plusieurs fois à quelques séances, leurs séances de travail. Donc moi, je pense qu'il y a déjà une certaine organisation qui se passe au niveau de la base. Il reste la consolidation de toutes ces organisations paysannes. Et donc, je reviens dans ce qu'on a dit tantôt. Pour consolider ces organisations, il faut la décentralisation. Il faut qu'on ait des moniteurs. Il faut qu'on ait des administrateurs des territoires. On a besoin de toutes ces structures pour renforcer, pour consolider ces organisations paysannes. Évidemment, pour que ces organisations puissent arriver à accéder au crédit, il faut d'abord au départ qu'elles soient organisées. Et donc, mine de rien, on a besoin vraiment de... Et puis, je vais exhorter à tous nos compatriotes de ne pas toujours être très négatifs. Je ne veux pas exclure les critiques. On est là à donner des critiques pour aider les acteurs, que ce soit au niveau politique, du gouvernement, ou tout acteur à chaque niveau. Donc, ça ne sert à rien de ne voir que le côté négatif. Essayons d'ouvrir les yeux. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et chacun... en tant que citoyen congolais, est invité à contribuer. Chacun à sa façon, chacun à son niveau. Donc ne soyons pas de mauvaise foi, de critiquer tout à cause de la politique, mais voyons les côtés positifs. Qu'est-ce que chacun de nous doit faire pour que ce projet puisse réussir. Voilà.
Alors, docteur Manyonga, parmi les recommandations, les conférenciers ont notamment demandé au gouvernement d'assurer la cohérence entre les actions du pouvoir central et celles des provinces. Nous avons fait plusieurs émissions ici avec des provinces qui accusent souvent Kinshasa de pérenniser cette mainmise, de continuer à dicter des choses aux provinces. Sentez-vous suffisamment de volonté politique pour que ça change?
Moi, je crois que les provinces doivent se prendre aussi en main. Et je crois qu'avec aussi le fait qu'on veut aller vers la décentralisation, prenons ce cas concret même de la décentralisation de la politique agricole. Moi, je mets au défi les provinces qui accusent tout le temps le gouvernement central qu'ils viennent avec des propositions concrètes qu'ils, voilà, on dit on va relancer, mais qu'ils viennent déjà avec des propositions concrètes. Voir le ministère de la fonction publique, nous, dans notre province, nous avons besoin de tels fonctionnaires, tel nombre, etc. Et voici la politique déjà interne, parce que tous ces fonctionnaires c'est vrai, doivent dépendre d'abord de la province. Voici notre politique interne pour la gestion, pour l'encadrement, la mise en place de tous ces gens. Je mets au défi les gouvernements provinciaux de nous d'amener au niveau
de
central.
De prouver le contraire.
Oui, d'amener au niveau central leur propre Merci. Politique agricole. Voilà.
Jean de Dieu Minengou, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale.
Moi, c'est Pepe Lisungi Botomoito. Je vous appelle depuis la province orientale à Kisangani. Au moment où les bilans des tracteurs restent mitigés, pensez-vous que les recommandations issues de ces conférences porteront des fruits dans un pays où l'impunité règne, les biens des cultivateurs et pêcheurs détournés à tous les niveaux et 80% des espaces de terre sont occupés par les riches au détriment des pauvres et analphabètes et qui ont que les secteurs agricoles pour se sauver dans la vie?
Réaction, docteur Minengo.
Oui, je crois que il vient de donner une partie de la réponse à Daniel, parce que Daniel a dit que la réflexion doit précéder l'action, nous sommes d'accord. Mais une réflexion qui précède l'action, et que les recommandations de la réflexion qui ne sont jamais mises en application, là c'est une perte de temps. Donc aujourd'hui, je voudrais revenir pour dire et pour développer le secteur agricole en République démocratique du Congo, je l'ai déjà dit, les politiques, les stratégies font partie des politiques agricoles. Donc, dire qu'il faut recruter les moniteurs, il faut recruter les administrateurs des territoires qui connaissent quelque chose sur le développement agricole ou sur le développement tout court, mais je l'ai déjà dit, il y a les services de l'État qui existent déjà. Ça ne sert à rien aujourd'hui de dire qu'il faut créer les bureaux d'études pour pouvoir développer le secteur agricole dans notre pays. Non, les services habilités avec des compétences nécessaires existent en République démocratique du Congo. Il suffit de donner les moyens nécessaires à ces services pour produire des semences, pour produire des intrants, pour encadrer les agriculteurs. Le secteur agricole en République démocratique du Congo ira de l'avant. Aujourd'hui, il y a Daniel qui a également évoqué la question, dit, bon, voilà, ce ne sont pas des éléphants blancs, etc. Est-ce que Daniel pourra-t-il nous donner le bilan du service national et des réserves stratégiques générales? Il y a une réflexion de fond qui a été menée par rapport à ça. Mais quel est le bilan aujourd'hui? L'État a mis suffisamment de moyens pour tout cela. Il nous faut absolument, dans ce qu'on est en train de faire, qu'on fasse des choses qui doivent être viables et des choses qui doivent donner des résultats escomptés.
Alors,
je l'ai dit dans une émission ici sur la radio Capi, ici c'était l'émission, je crois, Parole aux éditeurs. J'ai dit, je suis d'accord avec la création de parcs agro-industriels. Ça, c'est mon point de vue, c'est sur le plan scientifique. Mais j'ai proposé au gouvernement, au lieu que les parcs agro-industriels soient là pour produire des légumes, soient là pour produire du maïs, soit là pour produire du manioc, mais les parcs agro-industriels devraient être orientés vers la production des intrants agricoles qui devraient être distribués aux agriculteurs. On produit par exemple les semences, on produit par exemple les engrais, on peut avoir au niveau des parcs agro-industriels des unités de fabrication de quelques outillages agricoles, et dans les parcs agro-industriels, on peut avoir des unités de transformation. Mais la matière première devrait provenir des agriculteurs, si nous voulons vraiment créer une classe moyenne et si nous voulons avoir des petites et moyennes entreprises. Il ne faut pas à la fois on dit une chose et sur le terrain on fait le contraire. Vous créez des parcs agro-industriels et vous dites vous voulez créer des petites et moyennes entreprises. Vous créez des petites et moyennes entreprises avec des parcs agro-industriels ou en appuyant les activités. Donc le conseil que j'avais déjà dit ça, c'est que les parcs soient orientés vers ce secteur et non vers la production. Sinon, les agriculteurs n'ont plus quelque chose à faire. Un parc comme ça va produire des tonnes et des tonnes de produits. Mais qu'est-ce que les agriculteurs vont produire? Où est-ce qu'ils vont vendre leur production?
Jean de Dieu Minengou.
Oui.
Oui. Parmi les recommandations, les participants ont également demandé qu'une attention particulière soit accordée aux petites et moyennes entreprises et industries. On l'a beaucoup répété au cours de cette émission, mais on se souvient également que ce n'est pas la première fois. Ça a souvent été abordé cette question, mais ces facilités n'ont jamais été accordées aux Congolais d'avoir accès à des crédits et à d'autres aspects.
Oui, mais c'est ça qu'on est en train de dire. Donc, une réflexion dont les recommandations ne sont jamais appliquées sur le terrain, c'est une permettant. C'est que nous avions, les conseils que nous avions toujours donnés en tant que scientifiques au pouvoir public congolais, c'est que tout ce qui est décidé dans le cadre de ces réflexions soit appliqué. Ce n'est pas la première fois que les Congolais se réunissent pour prendre les décisions par rapport. Quand vous lisez les recommandations de la Conférence nationale souveraine sur le développement agricole en République démocratique du Congo, mais c'est fantastique. Ces recommandations n'ont jamais été appliquées sur le terrain. Donc, je ne dis pas que rien ne sera fait, mais nous disons que tout ce qui est décidé par rapport à cette conférence, que les pouvoirs publics congolais prennent quand même le soin de pouvoir les appliquer sur le terrain. Nous sommes d'accord qu'il faut créer des parcs agro-industriels. Nous sommes d'accord qu'il faut appuyer les PME. Il faut définir comment les punir. Il ne faut pas écrire des choses, et puis le lendemain, et puis on met ça dans les tiroirs, on s'occupe d'autre chose. Donc voilà ce que moi je peux dire en rapport avec tout cela.
Merci Jean de Dieu Minengo. Daniel Moulinda, il y a Pierrot Mouviri qui nous écrit de Goma Nord Kivu, qui dit que les décideurs gouvernementaux cessent avec des conférences budgétivores puisqu'ils ne servent à rien. Par contre, qu'ils descendent sur terrain afin d'appuyer les petits paysans avec les semences et en subventionnant les centres de recherche agronomiques. Sinon, rien n'ira jamais et les recommandations resteront lettre morte. Brièvement, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission.
Disons, je vais dire seulement que quand on utilise les mots comme perte de temps, comme celui que notre frère vient d'utiliser, conférence budgétivore, on se place du côté de la fatalité. Or, les Congolais doivent se placer du côté du progrès. C'est-à-dire, quand on fait une initiative, on peut échouer, mais il faut considérer l'échec comme un cumul d'expérience. C'est pour dire que tout ce qui a été décidé l'a été en concertation entre toutes les forces vives de la République. Nous croyons qu'à travers cette conférence, les Congolais a démontré les chemins qu'ils voudraient suivre. Que les gens sortent de leur pessimisme et qu'ils fassent confiance au gouvernement. Ça sera appliqué.
Mais il y a par exemple le président de la COPEMECO qui a beaucoup exhorté et insisté que les autorités politiques appliquent quand même les résolutions issues des précédentes conférences.
Mais nous avons travaillé ensemble avec eux. Comme je vous dis, l'histoire est en train de tourner son rouleau. Là où on a échoué, il faut envisager de réussir. C'est pourquoi j'ai dit que cette fois-ci, le gouvernement est très déterminé. Parce que c'est une option. En fait, les gens ne comprennent pas. Nous voulons assurer une croissance inclusive. Nous n'avons pas de choix que d'aller soutenir les initiatives du développement à la base, ainsi que soutenir les petites et les moyennes entreprises.
Et donc, en guise de conclusion, il faut espérer.
Il faut espérer.
Alors, docteur Manyonga, qu'est-ce qu'il faut de plus pour que ce projet puisse prendre corps?
Ce projet doit être palpable là-bas. Ça veut dire on a besoin que le plus tôt possible, qu'au niveau de chaque secteur, que les choses bougent. Si on ne peut pas le faire directement dans toutes les provinces en même temps, ben, comme ils ont commencé avec le projet pilote de Bikangalonzo, qui prennent au moins un secteur ou un territoire pilote où ils vont tout investir, vont essayer d'organiser, de mettre en place ce qu'ils ont dit et qu'on voit ce que cela va donner.
Voilà. J'évoquais tout à l'heure le problème des moyens en posant la question à Daniel Moulinda entre les provinces, le problème de rétrocession et les autres entités. C'est un peu compliqué tout ça.
Oui, ça c'est très compliqué. Je crois que c'est pourquoi au niveau central, on doit s'en tenir à un rôle des politiques globales. Mais ceux qui doivent passer à la mise en œuvre, à l'exécution, c'est au niveau provincial. C'est pourquoi ils ont besoin que le gouvernement central puisse leur donner cette possibilité de mettre cela en œuvre.
Merci.
Donc de procéder à la rétrocession comme cela a été convenu.
Merci, docteur. Merci beaucoup. Jean de Dieu Minengo, conclusion.
Oui, je dis ceci. Si nous voulons développer l'agriculture en République démocratique du Congo, il y a deux piliers importants. Le premier pilier, c'est la volonté politique. Parce qu'on peut avoir, on peut faire la décentralisation, on peut recruter des administrateurs des territoires, on peut faire recruter des agronomes. Mais tant que la volonté politique n'y est pas, on ne va pas développer la. Le deuxième pilier important pour le développement de l'agriculture en République démocratique, ce sont des bonnes politiques, mais pas des politiques où on élabore, on met les papiers à gauche,
merci,
dans les tiroirs, mais les politiques
qui doivent être appliquées sur le terrain.
Merci, messieurs, madame, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Réalisation Kevin Kouté, assisté de Samuel Kachak. Willem Lungamba était à la technique. Supervision pour l'équipe Elamondo. Coordination et présentation, Alain Roumouchinge. Merci de votre attention.